Tu l'as lu est une association qui organise des rencontres littéraires afin de faire rayonner la littérature romande. On organise entre 8 à 10 rencontres par année. Et puis l'idée, c'est de varier un petit peu les formats. Il y a toujours très souvent des lectures, il y a parfois des musiciens, il y a parfois des performances. On varie aussi les lieux. On essaye de découvrir de nouveaux lieux comme le Café du Loup. On essaye aussi de faire correspondre les lieux aux univers des auteurs ou aux auteurs eux-mêmes. Donc, le Café du Loup, c'est la première fois. Ensuite, on a vraiment un grand plaisir aujourd'hui à accueillir Bastien Roubati.
Merci.
Donc, Bastien Roubati a écrit un livre qui s'appelle « Le garçon léopard ». Il a publié ce livre aux Presses littéraires de Fribourg en 2022. Et Bastien Roubati vit à Fribourg. Il est écrivain et enseignant. Il a déjà écrit 3 romans. C'est juste ?
C'est juste.
Le premier s'appelle « Les caractères ». Il a été publié en 2016 au PLF aussi. Et ce livre a été finaliste du Roman des romans et du prix Bibliomédia. Ensuite, il a écrit un autre roman qui s'appelle « Après Saturne », qui a été publié en 2019 et qui lui a permis de recevoir la bourse d'écriture de l'État de Fribourg.
Exactement.
Et cette bourse, elle lui a permis d'écrire le garçon léopard.
C'est ça.
Et puis le garçon léopard, ça, on est dans un cirque. Mais là, vous en saurez plus grâce à Alexandre Berthaud. Oui. Alors, Alexandre Berthaud, c'est lui qui va animer la rencontre. Alexandre Berthaud, c'est un grand lecteur, un grand connaisseur de la littérature romande. Il est responsable de la bibliothèque de la Sala et il est aussi membre du jury du prix Bibliomédia et du prix du livre de Lausanne. C'est juste. Et puis ensuite, on a l'honneur de recevoir Adeline Mello. Alors, Adeline Mello est clarinettiste et pédagogue musicale. Et puis, j'ai aussi lu qu'elle pratique les arts martiaux et qu'elle allie la musique et les arts martiaux. Voilà.
Mais pas ce soir.
Pas ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée.
L'école préparatoire Jacques-Yves Esmuet encourageait ses élèves à pratiquer absolument toutes les activités pouvant être menées à bien sans avoir à ôter la vie de quelqu'un de façon préméditée. Notre enseignante, Madame Vetter, nous apprit à lire, écrire et calculer. Mais elle fut aussi pour nous une instructrice de parapente, une tutrice en vulcanologie, une entraîneuse de course à pied et une metteuse en scène de comédie musicale. Elle nous initia à la spéléologie, à la forge et à l'apiculture. On la repérait parmi nos uniformes bleu marine grâce à son kimono, son épuisette ou son alambic. Elle allait toujours d'un pas pressé, ses talons martelant les dalles de pierre. Elle parlait aussi vite qu'elle se déplaçait et manifestait un sens accru de l'efficacité. Madame Vetter avait tout d'une biscotte. Sèche et cassante au premier abord, nous aimions pourtant la retrouver chaque matin. Elle nous était familière, réconfortante. Nous connaissions sa salle de classe depuis toujours. Des 3 hautes fenêtres gothiques qui la composaient, on apercevait le cloître et son bassin dans lequel pissaient des sirènes. L'école préparatoire avait d'abord été un large couvent, bâti en bordure de ville par un seigneur hautement crucifile. Après avoir accueilli pendant plusieurs centaines d'années des nouilles en cornette, comme disait Madame Vetter, des enfants y avaient été peu à peu scolarisés. Ils y avaient appris des tas de choses strictement religieuses, mais aussi comment prendre soin d'un potager, d'une ruche, ou aider une ânesse à mettre bas. Les années passèrent et les religieuses finirent par céder la place à un pédagogue visionnaire, richissime et un peu remonté contre le Très-Haut, qui qui acheta le couvent pour faire chier les nonnes, y supprima tous ses saints principes, y installa une école préparatoire moderne et humaniste à son nom, puis fut frappé par un éclair, un jour sans orage, qui le réduisit en un petit tas de cendres. Cette ironie, que tout le monde qualifia d'aléatoire sans parvenir tout à fait à s'en convaincre, empêcha Jackie Vesmuet de toucher à l'architecture des lieux. Les paniers de basketball étaient donc fixés sous les vitraux, l'orgue continuant de jouer à tue-tête pour encourager l'équipe lors des matchs à domicile. Des bénitiers servaient ça et là de pots de fleurs ou de cendriers. La salle d'études était encadrée de rideaux épais, empêchant les bruits de résonner contre la pierre et les saints de surveiller quiconque recopiait ses devoirs sur ceux de son voisin. J'adorais l'école préparatoire. J'y étais demi-pensionnaire depuis mes 5 ans. J'avais vécu parmi les fantômes en soutane des instants mémorables, sans cesse stimulé par une camaraderie authentique et une curiosité éprenée du matin au soir. La sévère Madame Vetter me passionnait et me poussait chaque jour à envisager une carrière différente. La charpenterie était aussi absorbante que le droit constitutionnel et j'aurais voulu continuer toute ma vie à passer de l'un à l'autre sous son égide. Ce jour-là, pourtant, le cours d'horlogerie me paraissait interminable. Mes lunettes loupes m'empêchaient de lire l'heure depuis ma place, mais pas d'avoir l'air ridicule. Et bien qu'aucun pignon ne fût monté correctement dans mon cadran, j'entendais les secondes résonner avec lenteur. Quand le ponctuel pivert domestique du directeur actionna enfin la cloche, je dévalai 3 paires d'escaliers, poussai 2 portes, inscrivis dans la neige 50aine de traces de semelles, puis la voiture de mon père démarra en se raclant la gorge. Nous avions rendez-vous avec André, au cirque. C'était là que vivait le géant, c'était là qu'il travaillait aussi. Il collait des affiches, plantait des piquets, portait diverses choses lourdes et surtout présentait un numéro de force dans un juste au corps rouge découpé dans une toile de montgolfière. Le cirque Van Ornum était installé pour l'hiver dans un terrain vague, dont les vieux quartiers, au milieu des rangées de maisonnettes entassées les unes sur les autres, et dont les cheminées fumaient comme des usines. Entouré de trottoirs pavés, le champ en friche qui fournissait aux enfants une réserve inépuisable de découvertes par beau temps, accueillait entre septembre et mai des grappes de roulottes colorées, de fanions ondulants et de guirlandes lumineuses. Comme si quelqu'un avait brisé sur le sol gelé un immense kaléidoscope. Tout était constitué d'éclats brillants et de morceaux chatoyants. Le poumon de ces lieux était une tente monstrueuse, gonflée et chaude, tendant vers le ciel des pointes étoilées comme autant de paratonnerres fantaisistes. André nous attendait sous le portail à ampoules qui titrait « Cirque Van Ornum, rêve éveillé et extraordinaire surprise ». Sa morphologie était encore plus impressionnante en plein jour. Ses muscles gonflés tendaient ses vêtements comme s'ils avaient été remplis de galets. Il nous conduisit jusque chez lui, sur la boue gelée. En chemin, des confettis tombèrent sur nos épaules, soufflés du sommet du chapiteau par le vent. Mon père les chassa de mes cheveux épais du mieux qu'il put, comme il aurait balayé des insectes de toutes les couleurs d'un buisson très dru. Arrivé parmi les roulottes, nous croisâmes le regard appuyé de 2 filles de mon âge, parfaitement identiques, qui frissonnaient sous un porche. Un homme au visage tatoué salua André d'une fenêtre, tout en nous jaugeant avec méfiance. André nous invita finalement à entrer, alors que d'autres rideaux s'écartaient suspicieusement çà et là. Nous nous installâmes sur des banquettes vieillottes, et André nous apporta des tasses minuscules en porcelaine de Sainte-Marguerite. Il s'excusa.
Je collectionne la vaisselle miniature, c'est tout ce que j'ai. Je ne peux vous faire qu'une petite théière à la fois, mais une autre est sur le feu. Je reviens.
Sa tête frôlait continuellement le plafond. Il retourna derrière la kitchenette en lançant plusieurs regards nerveux vers l'extérieur. Quelque chose semblait l'alarmer. Je soufflai sur le demi-décilitre d'eau chaude. Un drôle de silence régnait dans la roulotte. Il nous proposa des pralines à l'esturgeon, sans réussir à s'empêcher de scruter son paillasson en nous les tendant. Mon père engagea la conversation, mais André était distrait à chaque bruit et peinait à terminer ses phrases. Je les interrompis. « Il y a des animaux dans votre cirque ?»«
Non. Non, parce que... à cause de la directrice. Elle n'en veut pas. C'est dommage. Mais il y a des artistes formidables, tu verras. Ils sont bien mieux que des poneys, des tigres, des singes hurleurs ou que sais-je. Tu es déjà allé au cirque ? Non. Alors, tu verras. Pas besoin d'animaux pour que ce soit chouette. »
À cet instant, quelqu'un frappa lourdement à la porte de la roulotte. André sursauta, se dressa précipitamment sur ses pieds et bégaya en ouvrant. « Bonjour André, vous nous présentez ?» Sans attendre sa réponse, la nouvelle venue s'assit en face de moi et desserra son écharpe. André, étrangement intimidé, se tenait en retrait.
« César, Bertil, je vous présente Madame Van Ornum, notre directrice. »
Ses doigts osseux serrèrent nos deux mains, pendant qu'André disparaissait dans un placard, à la recherche d'une quatrième tasse. « Elena, ravie de vous rencontrer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'animaux dans votre cirque ?» J'étais curieux. André fut pris d'une toux nerveuse alors que la discussion se figeait. Elena Van Ornum eut l'air amusée. « Eh bien, à cause de cela, sans doute. » Et ce disant, elle laissa tomber sa main gauche sur le plateau de la table dans un bruyant éclat. Son avant-bras, son poignet, ses phalanges, tout était en un vert épais et translucide. Je scrutai le membre sculpté, puis remontai jusqu'à son visage. Elena Van Ornum était vieille et belle. Ses cheveux étaient rasés et des anneaux d'or cerclaient son cou, ses yeux et pendaient de ses lobes.
Un crocodile moucheté de 706 kilos. J'avais 6 ans, et lui aussi. Mais c'était lui le plus affamé. Si j'avais su, je l'aurais croqué la première.
Elle eut un sourire carnassier.
Dans l'ambulance, j'ai décidé que quand j'aurai mon propre cirque, je ne ferai jamais courir à mon clan le risque des animaux dangereux, ni aux bêtes dociles, celui des hommes mauvais.
Je hochai la tête. La puissance qui se dégageait de cette femme me rappelait Madame Vetter. Elle était impressionnante, et rassurante à la fois.
Thank you. Merci Adeline, merci Bastien. Bonsoir à vous. Avec ce premier interlude et cette première lecture, vous avez clairement le thème de la soirée, ce sera le cirque. Alors, on fait rarement ça aux soirées de la Lune, mais je me suis mise d'accord avec Bastien. Il n'y aura pas de jugement ce soir, mais on va commencer avec une simple question pour vous. Qui c'est qui a lu le livre ? Eh bien, j'espère qu'à la fin de cette soirée, vous aurez envie de lire ce livre. Parce que du coup, je vais commencer avec un rapide résumé de ce roman. Donc, comme Cornelia l'a dit, c'est le troisième. On suit, en fin de compte, la vie de la famille Montgomery. Entre autres, Bertil, qui est un jeune homme d'une douzaine, quinzaine d'années. On ne sait pas vraiment, et ce sera à vous de le déterminer. La vie de cette famille va être un peu chamboulée le moment donné où ils vont rencontrer, en fin de compte, la directrice de ce cirque, un cirque qui va pas très bien. Et du coup, ben, pour essayer de redresser un peu les finances, ils vont engager un comptable, César Montgomery, qui aura la tâche de redonner un peu les chiffres noirs à ce cirque. Il va y avoir des rebondissements, il va y avoir beaucoup de thèmes abordés ce soir, et on ne va pas faire durer le suspense. La fin est heureuse. Donc, vraiment, vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire ce livre. Donc c'est vrai que le cirque a une grande place dans ce roman et je voulais commencer par ça parce que bon ben honnêtement on va enlever le suspense. On s'est déjà vu vendredi, on a eu l'occasion de discuter un petit peu et j'ai déjà un peu teasé tout ça. Mais l'histoire de ce livre, tu m'as raconté ça vendredi et je trouve assez fou. Alors peut-être commencer par ça, comme ça rajoute un peu de magie à cette soirée.
En fait, l'univers du cirque ne m'attire pas particulièrement. Je n'ai jamais fait moi-même de cirque. Enfin, il y a quelque chose de magique, comme je pense tout un chacun le ressent quand on imagine le monde du cirque. Mais la raison pour laquelle ce livre il se déroule dans un cirque, c'est que mes grands-parents étaient... ma grand-mère était maîtresse d'école et mon grand-père était comptable. Et quand mon grand-père a eu son diplôme, le cirque CNI cherchait une maîtresse d'école et un comptable pour faire la tournée avec le cirque et du coup pour vivre avec les artistes, pour pouvoir enseigner aux enfants des artistes et du personnel du cirque et pour pouvoir gérer les comptes du cirque. Et mes grands-parents ont longtemps hésité à postuler et finalement mon grand-père a travaillé toute sa vie à la Banque cantonale de Fribourg, donc c'est un petit peu moins excitant, mais c'est quelque chose qui est resté un petit peu dans la mythologie familiale d'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être notre vie si on avait grandi dans un cirque et qu'on avait côtoyé des acrobates et des jongleurs.
Sur le principe, ça t'aurait plu ?
Je pense que ça m'aurait beaucoup plu.
Ouais. Ok. Bon, on voit en tout cas que tu continues à avoir un peu ce côté à vouloir jouer avec les trapèzes, si j'ose, parce que je ne sais pas si vous voyez dans mon livre, mais les petits papillons bleus, ouais, je vous le ferai passer après si jamais, mais j'en ai encore besoin maintenant, c'est pas tous, mais c'est les endroits où moi, je me suis dit, là, il y a du jeu, il y a une volonté de jouer avec la langue, c'est très chantant, c'est, tu joues avec la langue, tu fais des jeux de mots tout le temps, et là-dessus, je voulais aussi t'entendre, parce que c'est vrai que c'est une lecture qui donne véritablement la banane. Alors, si vous avez un coup de mou, on sort un peu de l'hiver, mais malgré tout, si vous avez un coup de mou, lisez ça, ça vaudra vraiment la peine. Et du coup, ouais, l'histoire de l'écriture, comment t'as fait pour avoir une écriture comme ça ?
Ben, je trouve que c'est intéressant de vouloir quelque chose qui n'est pas moins littéraire parce que c'est drôle, mais de trouver un équilibre entre quand même un travail sur la langue, parfois sur le rythme des phrases et tout, et en même temps que ça soit quand même drôle. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire quand j'étais enfant, mais quand j'ai commencé à écrire un petit peu plus sérieusement, c'est en même temps que j'ai découvert Boris Vian. Et je trouvais génial que ce soit considéré comme de la littérature, la grande littérature, et qu'en même temps, ça me fasse rire, et que ce soit léger, et qu'il y ait des blagues un peu potaches. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé.
Justement, l'écriture, vu qu'il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de côté chantant, est-ce que tu écris à voix haute ?
Ça dépend des passages, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je me relis, et quand c'est des passages que j'ai oubliés depuis longtemps et que ça me fait rire, alors c'est que c'est bon signe en principe. Donc quand c'est comme ça, je lis pas, j'écris des fois dans des cafés, mais pas à voix haute, en riant tout seul, parce que sinon c'est un petit peu
dommage. Franchement, essaye.
Et j'écris aussi pour du théâtre. Et du coup, là, par contre, il y a vraiment le côté oral qui est très important. J'ai de la peine à écrire du théâtre sans dire les répliques à voix haute.
Et est-ce que tu mets de la musique aussi ?
Et je mets aussi de la musique, ouais. J'écris toujours avec de la musique en fond.
Ok, et c'est pas quelque chose qui te perd, c'est plutôt quelque chose qui t'accompagne.
Ouais, ça me sert vraiment à créer une sorte de bulle. Et si c'est trop silencieux, je m'entends trop penser, ça marche pas très bien. J'ai besoin d'avoir. Parfois, la musique, ça peut être juste justement l'ambiance d'un café avec les gens qui passent, qui prennent leurs commandes, le bruit de la machine à café, comme ça. Mais parfois, ça peut être aussi toutes sortes de musique, plutôt sans parole, plutôt des choses calmes, mais ça m'aide vraiment à me mettre, comme un peu la bande-son d'un film, ça m'aide vraiment à me mettre dans une ambiance.
Ok. Et on va de nouveau un peu jouer avec le public, hein, parce que moi, je travaille en bibliothèque, je suis toujours un peu confronté avec les lectrices, et je m'interroge toujours sur les personnes qui écrivent des romans, est-ce qu'ils ont des attentes par rapport à ce que tu veux transmettre, la manière dont ça va être accueilli par le public. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui guide un peu ta manière d'écrire, ta manière de travailler ?
Je pense qu'il ne faut pas trop se baser sur ce que le public attend, parce que ça risque de dénaturer peut-être un petit peu ce qu'on est en train de faire. Mais là, il y avait clairement une idée qui m'a guidé dans l'écriture du Garçon Léopard, c'était d'imaginer un roman d'apprentissage, dans lequel le jeune homme ne passe pas par les étapes par lesquelles on s'attend d'habitude d'un roman d'apprentissage, donc qu'il n'aille pas voir une travestie du sexe, qu'il ne se batte pas, qu'il ne tue personne, qu'il ne s'alcoolise pas à presque mourir, enfin, que ce soit des étapes qui sont un peu différentes. Et j'avais envie de montrer une autre façon d'arriver dans la vie adulte et puis d'apprendre. Donc ça, c'était quand même quelque chose dans lequel j'imaginais la réception des gens, mais en même temps, des fois, il faut un petit peu oublier qu'il y a plein de petits yeux sur nos épaules et puis être seul avec son texte.
Non, ce serait l'angoisse, en fait.
Ouais, exact.
Comme tu disais, l'apprentissage, et on va continuer à parler de toi, parce que c'est vrai qu'à côté de ton travail d'écrivain, tu as 50% où tu es enseignant, enseignant pour l'équivalent du secondaire sur le canton de Vaud, avec eux, sur Fribourg, ils ont gardé les trois voies, ce qu'on n'a plus sur le canton de Vaud, on n'a plus que deux voies. Mais du coup, tu t'occupes de l'équivalent de la VSO. Donc c'est avant tout ce qui était en bas et qui était un peu mal vu.
C'est ça.
Est-ce que tu veux peut-être un peu nous parler de ça par rapport à le plaisir que ça d'enseigner et qui transparaît un peu dans le parcours de Bertil?
Je pense qu'il y a clairement une tendresse pour les adolescents que j'ai pu mettre dans ce livre-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est un métier formidable de pouvoir être tous les jours en contact avec des personnes pour qui le livre, c'est souvent considéré comme un ennemi ou comme le symbole de ce qu'on n'arrive pas à atteindre, et d'essayer de faire changer les choses, vraiment en étant très humble avec ça, parce que ça ne marche pas toujours, mais en essayant de leur montrer que la littérature, ça peut quand même être intéressant, et que le français, ce n'est pas seulement les classes grammaticales et les fonctions grammaticales, mais que c'est aussi jouer avec la langue. Je pense que ça complète vraiment bien mon activité d'écriture. J'aime vraiment avoir les deux.
Quelqu'un qui dit bravo devant. Donc dans l'idéal, tu aurais voulu être justement la prof de Bertil ?
Je pense que ça m'aurait beaucoup plu de faire avec mes élèves de l'apiculture et de la spéléologie. Ouais. Mais malheureusement, je fais que du français.
Que du français. Justement, on va aussi parler un peu de tous les thèmes qui sont présentés dans ce roman. Mais avant ça, le titre, c'est vrai qu'on l'a dit une fois, mais le garçon léopard avec un trait d'union, un peu comme si c'était une espèce ou une classification, enfin c'est pas le garçon espace léopard. Est-ce que ça c'est voulu ? Est-ce que tu voulais donner quelque chose par rapport à ça ?
D'habitude, je suis nul en titre. Tous mes romans, ils ont été rebaptisés avec l'aide de l'éditeur, parce que c'est difficile de trouver la bonne formule du premier coup, mais pas pour le garçon léopard. Et je pense qu'il y a ça, ouais. J'imagine que Bertil, c'est un peu un garçon pas comme les autres, et qu'il a un peu une façon de grandir justement différente. Et ce qui l'intéresse dans le côté du léopard, c'est pas tellement le fait que ce soit un fauve, mais plutôt un peu sa flamboyance, son apparence, le fait qu'il est très... qu'il est très souple, qu'il est très discret. Enfin, c'est aussi des qualités qui sont souvent moins valorisées chez les garçons et que Bertil a. Et du coup, je trouvais intéressant de le voir de cette façon-là.
C'est vrai que c'est un des grands thèmes qui est présenté dans ton livre, la différence sous plusieurs formes, déjà avec sa sœur, Esmée. On ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle ne parle pas. Mmh, elle est un peu décrite comme quelqu'un de particulier, mais de nouveau sans jugement. Mmh. Et la question du jugement, on va y venir. Il y a Pascaline, l'incroyable femme à barbe, et en fin de compte, tous les personnages plus colorés les uns que les autres du cirque, et j'en oublie certainement. La question de la différence, c'était quelque chose de volontaire, enfin de, qui t'était cher dans ce roman?
C'était super avec le thème du cirque de pouvoir avoir des personnages qui étaient considérés comme des monstres justement dans les premiers cirques et qui étaient montrés pour leur différence physique et d'en faire des espèces de super-héros et de montrer aussi un visage très humain de ces personnes-là, même si c'est des géants, des femmes à barbe ou des sorcières moises. Ouais.
Les sœurs samouraïs, je les avais oubliées en fait, mais elles sont incroyables, les jumelles, je vous conseille.
Exact.
C'est vrai que, comme je disais avant, c'est un livre qui donne vraiment la banane. Il y a une volonté, je pense, de vraiment pouvoir rire de tout le long de ce livre. Malgré tout, il y a quand même des moments très difficiles, parce que c'est vrai que typiquement pour une partie de la famille, ça ne va pas être aussi simple. Il y a quand même des passages très difficiles, notamment pour la mère. Et cette volonté de donner peut-être un peu du relief dans ce roman, comment tu l'as appréhendé?
En travaillant avec des adolescents, il y a vraiment tout le temps ces deux côtés où il y a un côté très explosif, flamboyant, très bruyant, très vivant, qui est génial. Et d'un autre côté, il peut y avoir aussi des fois des moments très profonds, très tristes, qu'on ne peut pas soupçonner. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a inspiré pour l'histoire, probablement.
Personnellement, pour le prochain thème, j'ai bien envie de parler encore de Garance et peut-être aussi de Ondine, mais avant ça, il y aura peut-être un petit interlude musical. Thank you. après ce morceau, je vous propose maintenant de faire connaissance justement avec Ondine.
Plus tard dans le mois, nous plantâmes notre chapiteau non loin du lac Confiance. Je me rendis à la plage, accompagné d'une crème glacée en robe d'été et de ma petite sœur à la violette. J'étais heureux. Le sourire d'Esmé et Mary Cochet faisait tressaillir la surface du lac. Nous avions visité des coins de campagne isolés, des quartiers miteux, des villes de province séchées comme du vieux cuir. Certaines places puaient les égouts, d'autres grouillaient de rats. D'autres se transformaient en une immense flaque de boue à la moindre averse. Pourtant, partout, le public s'émerveillait. Les enfants crispés d'excitation écarquillaient les yeux et tapaient dans leurs mains. Leurs parents sursautaient de ravissement. Nous fournissions des rêves éveillés de première qualité et des surprises incontestablement extraordinaires. J'avais appris à adorer la vie en communauté, mais aussi à profiter des rares occasions qui me permettaient d'être un peu à l'écart, surtout quand l'écart impliquait un rayon orange et chaud sur mon torse nu, ma petite sœur à mes côtés et un paysage à couper le souffle. « Excuse-moi !» dit soudain une voix. Je scrutai les environs. Personne. Je crus avoir rêvé et me baissai pour cueillir un galet parfaitement rond et plat. C'était le caillou idéal, lisse et tiède. La voix reprit. « Est-ce que tu pourrais monter le volume du transistor, s'il te plaît ? J'entends rien de là-haut. » « De là-haut ? » J'ai levé la tête vers cette improbable direction et vis des cheveux noirs, très longs, deux yeux en émeraude polie et un justaucorps vert, ouvert sur un dos crème. Le tout formait une fille de mon âge, suspendue par les genoux à un fil tendu entre deux sapins. Son visage, renversé en dessus du mien, exprimait un soupçon d'impatience. « Je voudrais bien entendre ta musique, elle a l'air chouette. » Je tournai le bouton de la petite radio portative empruntée aux jumelles, qui crachotait une chanson niaise. Satisfaite, elle se hissa sur le câble et s'y accroupit. Les cimes ployèrent, puis l'ensemble se stabilisa. La funambule se redressa alors avec précaution et reprit très lentement sa périlleuse traversée, aussi silencieusement qu'elle avait commencé. Je m'assurai qu'Esmé n'était pas sur le point de se noyer. Elle empilait des pierres loin de la rive, puis me mit à suivre la progression de cette fille sur son trait noir. « Comment tu t'appelles ?» Elle pencha la tête vers moi pour me répondre, mais le fil s'écarta soudain de son axe, comme poussé violemment sur le côté par ses pieds nus. Elle plongea littéralement dans le vide, épaule droite la première. Ses bras se plièrent à la recherche d'un impossible équilibre, alors que son dos pivotait pour s'apprêter à heurter le sol de toute sa surface. Je criai. Le câble forma une belle courbe concave, puis remonta sous l'effet de lois physiques dont Mme Vetter avait dû me parler à l'école. Je fermai les yeux, comme si c'était vers moi que le sol se rapprochait soudain. Il n'y eut pas d'impact. « Je m'appelle Ondine. » La tête en bas, elle pivota pour remonter le long du cordon de sécurité auquel elle pendait comme une araignée. Elle s'assit sur le câble. « Et toi ?»« Bertil. »« Tu fais partie du cirque, là-bas ?» J'acquiesçai. « C'est quoi ton truc, jongleur ?»« Je ne suis pas artiste dans le cirque. C'est mon père qui travaille comme comptable. »« Tu sais rien faire, alors ?»« Si, je sais jouer de la clarinette. » Elle se releva et continua d'avancer tout en discutant, le regard droit devant elle. Les sapins offraient à ses petits pas musclés et souples des courbettes respectueuses qui faisaient s'envoler les corbeaux qui s'y étaient réfugiés. Je ne sus plus quoi dire. Sa grâce m'impressionnait. Je la laissai s'éloigner un peu, faisant volte-face en entendant la tour de pierre d'Esmé se renverser fatalement. « Bertil ! Il y a quelqu'un qui vient pour toi. » De là-haut, elle avait vu approcher la silhouette pataude de Zygomar. Le magicien avait quelque chose d'un crabe, écarlate et un peu boiteux. Il zigzaga jusqu'à nous.
Mon garçon, j'ai besoin de ta sœur pour élaborer mon prochain tour. C'est arrangé avec ton papa. Ce ne sera pas long.
Il se pencha vers Esmé et lui expliqua la même chose, avec une voix agaçante qui me donna envie de le secouer. Je serrai le galet parfait contre ma paume. Pour qu'elle accepte d'abandonner ses constructions, il fit sortir de son chapeau une nuée de papillons. Ils s'en allèrent, main dans la main. Contrarié, je le regardais disparaître dans les bois. Ondine se trouva soudain à mes côtés. Des gouttes de transpiration perlaient sur son front blanc. Elle ôta son baudrier et s'installa sur les carreaux de ma couverture. Cet homme, il est venu à la maison cet après-midi. On vend pas mal de bric-à-brac. Apparemment, il y en avait qui l'intéressaient. J'imagine qu'il avait besoin de matériel pour ses tours. Il est magicien. Il a changé le sucrier en grenouille. J'ai dû boire mon thé tout amer pendant qu'il me regardait avec ses petits yeux rieurs de cochon. Zygomar avait à n'en pas douter des allures porcines. Je l'imaginais très bien se goinfrer de biscuits en les faisant disparaître dans son ventre adipeux plus vite que par magie. Je préférais changer de sujet. « Pourquoi tu fais ça sur ce fil? T'es dans un cirque, toi aussi ?»« Je m'ennuie l'été, alors papa me l'a installé pour entraîner ma gymnastique. »« T'es doué. Tu pourrais nous rejoindre pour la fin de la saison. » Elle sourit et le sol se déroba sous mes pieds. « Je voudrais bien. » Ondine bascula en arrière et s'allongea négligemment dans les galets, la tête sur les bras. Mais il faudrait que je demande à mon père d'abord. Oh, c'est ma chanson préférée! Elle se redressa, tourna le bouton du transistor à son maximum et se mit à onduler ses épaules. Ses hanches suivirent. Elle se leva pour danser. J'étais très embarrassé. Je vérifiai que personne ne nous observait. Les hommes du cirque, ou pire, Garance, auraient eu de quoi se moquer de moi jusqu'à l'année prochaine s'ils nous avaient surpris. Allez, viens! Je dodelinai vaguement de la tête, me sentant tout à fait ridicule. Elle me prit les mains et m'entraîna. Je commençais à danser timidement, tentant de ne pas faire mauvaise impression. Je voulais être détaché, souriant et dégourdi. Je me sentais intimidé, grimaçant et maladroit. « Laisse-toi aller !» C'était facile à dire. Mon corps m'encombrait, je ne savais plus où regarder, plus quoi faire de mes membres, plus tenir debout, plus entendre la musique. La musique. Je me concentrais sur le rythme, les instruments, l'harmonie toute simple du morceau pop. Le monde autour de nous se mit à disparaître. Je battis du pied, la cymbale, gigotais, la basse, secouais les bras, la guitare. Ondine ricocha soudain très près de moi. Ses cheveux me chatouillèrent le visage. La couture de son juste au corps anesthésia ma main. Elle me serra contre elle, le temps de virevolter. Mon corps cessa de s'oxygéner. Sur le lac derrière nous, dans la nuit tombante, un projectionniste passa sur un petit bateau. Je vis la voile blanche afficher la vie future que je nous imaginais soudain. Nos bains en amoureux, nos voyages hasardeux, une chapelle remplie d'un public attendri. Notre danse naïve m'enivrait. Nos peaux se cherchaient de plus en plus. Quelqu'un tremblait, c'était sans doute moi. Je fis tourner Ondine. Ondine me fit tourner. La chanson se termina, mais pas notre danse. Nous étions les rois de la plage et notre ondulation juvénile et sauvage durerait toute notre vie. Ondine ! L'appel avait été hurlé de derrière les sapins. C'est papa, faut que j'y aille. Avant que je puisse réagir, elle courait déjà vers les grands arbres en agitant la main vers moi. La pellicule du projectionniste lacustre sauta.
Merci beaucoup. Comme je disais, c'est un des thèmes finalement qui va un peu percuter comme ça Bertil, la fin de l'enfance. La découverte un peu de l'amour avec un grand A, et puis je pense qu'on est, plusieurs à se reconnaître un peu dans ce Bertil qui tout d'un coup se dit oh, mais c'est fantastique, on va faire du bateau, on va acheter un appartement et puis il y aura une chapelle avec tous nos amis. Et comment s'est passé un peu ce moment de rédaction?
Pour ce genre de choses,
Je me suis beaucoup plongé dans mon adolescence à moi, en fait, et je me rappelle des moments où j'avais cette naïveté, où je découvrais des choses, et ça a été une matière assez infinie pour le monde intérieur de Bertil. Je pense qu'il me ressemble plus que ce que je veux bien l'admettre, mais je pense qu'il y a une grosse partie de moi à son âge dans Bertil.
Ouais, alors c'était en fait ma prochaine question. Ouais. C'était vraiment Bertil, c'est toi. Donc maintenant, on sait. On parle beaucoup de jeux et il y a un moment donné, pour ceux qui connaissent un peu le monde du jeu vidéo ou alors le monde du codage, il y a la notion d'œuf de Pâques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Yes. Est-ce que tu es d'accord de juste nous lire 2-3 lignes de la page 126 ?
Oui.
Vous verrez.
Elle est blanche.
Dyslexie quand tu nous tiens, c'était pas 126, mais 162.
Alors je pense que c'est pour ce passage-là. Mm-hmm. Je lui passais des disques. Elle me prêtait des livres. Jonk Mona, et à part ça, il faudrait bientôt que je dorme, ou l'été à Mimizan, délices du pain parasol, remplir nos moments passés entre les villes et les villages qui se succédaient au son de l'orchestre.
Est-ce que tu peux nous raconter, du coup ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces quelques lignes ?
Alors, Jonk Mona, c'est John Monar, c'est un auteur qui a commencé à écrire en même temps que moi. On a sorti notre premier roman quasiment la même semaine, si je ne me trompe pas. Et du coup, il a un livre qui s'appelle « Et à la fois, je savais que je n'étais pas magnifique », je crois bien. Et donc là, du coup, c'était une blague et une référence à ce titre qui est très long. Et Élise Dupin Parasol, eh ben, c'est Elisa Chua du Sapin. Au lieu de l'hiver à Sochaux, c'est l'été à Mimizan. Donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à Elisa, qui était finaliste du roman des romans avec moi.
Donc vous êtes prévenus, il y aura pas mal de jeux tout au long de ce livre. Ouais, bah, il faut venir à toutes les soirées, tu l'as lu. Voilà. la soirée file, on est très très loin déjà dans la discussion. C'est presque devenu une blague entre nous, mais du coup, je suis retourné sur son site internet et on voit que tu es toujours fan de curling. Et on s'est dit que ce soir, on allait clairement dire que non, Bastien est intéressé par le curling, mais pas plus que ça. Donc, si jamais, vous saurez pour les prochaines soirées, le curling avec modération.
Avec modération.
Ok. C'est peut-être le moment où le public aura des questions. Avant ça, je pense qu'on va se remettre de nos émotions et vous aurez aussi maintenant un petit moment pour réfléchir aux questions que vous voulez poser. Avant ça, un petit interlude. Merci, merci beaucoup. Avant de commencer cette partie question, donc j'espère que vous avez déjà bien préparé les vôtres, il y a encore un dernier point que je voulais aborder avec toi. On a dit qu'il y avait une grande majorité de rire et de côté burlesque. Il y a un moment ou des moments un peu plus difficiles, en tout cas avec la dépression ou autre. Il y a aussi tout le passage avec Garance, la consortionniste. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'elle elle voit des garçons, des hommes. Mais ce que j'ai vu dans ce livre, c'est que la notion de jugement n'est jamais présente. Et on en avait parlé ensemble, et je serais assez curieux de retrouver un peu ton avis justement sur la place du jugement et puis ou l'absence de jugement.
Ben, j'ai l'impression que les gens qui sont dans ce cirque et même dans cette histoire, ils seraient sûrement victimes de beaucoup de jugements ou de beaucoup de regards noirs s'ils existaient dans la vraie vie. Et du coup, dans mon livre, ils ont la possibilité d'exister sans qu'on ait ce regard-là sur eux. Alors, de la part des lecteurs et des lectrices peut-être, mais en tout cas pas de ma part à moi. Et je ne crois pas que c'est ça qui naît comme émotion, j'espère pas, quand on les découvre. Et ouais, je trouvais que c'était intéressant de passer par le cirque et ce milieu très positif pour aussi montrer des côtés plus sombres et des choses plus difficiles, sans pour autant dire que c'est bien ou que c'est mal, mais simplement c'est deux facettes d'une même pièce, on pourrait dire.
Exactement. Ouais. Mmh. La parole est à vous.
Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de vos grands-parents qui avaient eu cette possibilité, voilà, qui était en point de départ peut-être pour le livre. Est-ce que le livre est, comment dire, s'est imposé à vous à partir de ce point de départ? Est-ce que vous aviez un plan? Est-ce que les éléments topographiques faisaient partie du plan de départ? Ou est-ce que justement, c'est venu au moment de l'écriture? Enfin, voilà, comment s'est passé à partir de ce souvenir des grands-parents, comment le reste s'est-il emboîté?
Merci pour votre question. Je pense que déjà mes deux grands-parents en question, ils sont encore présents, donc j'ai pu leur demander de me raconter une fois pour être sûr que c'était un vrai souvenir et que ça s'était effectivement passé. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille qui est vraiment très normale, avec un papa, une maman, un frère, une sœur. Tout est carré, tout est comme il faut. L'idée de base, en une phrase, c'était qu'est-ce qui se passerait si on mettait une famille très normale dans un milieu très extraordinaire et que ça devenait du coup eux qui défient la norme par leur côté carré et par ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'était mon fil rouge. Et ensuite, j'aime bien travailler en imaginant 3-4 chapitres qui vont suivre et en ayant une petite idée du point de chute, mais pas très précise. Comme ça, je peux toujours me laisser surprendre en cours de route. Et du coup, je pense que la fin m'est venue quand j'avais déjà une bonne moitié du roman qui était écrite.
Est-ce que vous lisez vos livres avec vos élèves?
Je trouve que c'est compliqué parce que c'est difficile de le faire avec humilité. Et en même temps, ça peut des fois aussi un peu les dégoûter parce que la langue n'est quand même pas super accessible. Et parfois, ils sont intéressés et ils ont envie de découvrir ce que j'écris et je me rends bien compte que ça les ennuie et que ça les intéresse pas et ils se sentent tout coupables d'avoir avancé de 3 pages en un mois et ils me disent ouais mais vraiment j'essaye, j'aime bien, je dis, non mais il n'y a pas besoin de faire semblant, tu peux lire aussi Harry Potter, il n'y a pas de souci. Je pense que peut-être la façon de partager ça avec elle et eux, c'est plutôt de passer par l'écriture en fait, d'écrire vraiment avec eux et je fais chaque semaine des ateliers d'écriture, j'écris mon travail de master aussi sur un dispositif d'atelier d'écriture avec des élèves. Et ouais, je trouve que quand ça fait une année qu'ils écrivent une fois par semaine, il y a vraiment quelque chose qui vient et une vision de la littérature qui est très pure et je trouve ça génial. Donc des fois plus par la pratique que par la lecture.
Il y a un autre enseignant écrivain, Antoine Jacquier, qui justement évite de lire ses textes avec ses élèves simplement pour le moral personnel.
Ah, c'est vrai qu'ils sont des juges en principe
implacables. Quelqu'un d'autre?
Merci déjà pour la découverte. Et puis la question que j'avais, c'était dans votre processus d'écriture, comment vous articulez la quête sur la langue et les formules et la quête narrative du roman? Est-ce que vous aviez ces deux choses très distinctes? Vous aviez d'abord une trame, puis vous êtes venu la nourrir avec les formules, ou est-ce que c'est quelque chose qui se coélabore, ou est-ce que c'est carrément les formules qui prennent le pas sur le narratif, puis le narratif se construit à partir des formules? Comment vous articulez ça?
C'est intéressant comme question, merci. J'aime bien faire les deux ensemble, et aussi quand j'écris, je commence en principe par la page 1 et je finis par la dernière page. Et ça a l'avantage que ça se construit, ça va très vite dans le détail directement et ça se construit au fur et à mesure, mais le désavantage que parfois il y a 30 pages à détruire complètement et c'est pas juste un petit agencement à refaire, c'est vraiment carrément toutes les formules qu'on doit envoyer en éclat parce qu'on veut faire différemment. Et du coup, j'ai essayé de travailler d'autres façons, en faisant d'abord une version très brute du texte sans travailler sur la langue et en revenant après dessus. Mais en fait, ça ne marche pas aussi bien. J'aime bien avoir l'impression de m'amuser quand j'écris. Et pour avoir cette impression-là, je crois que j'ai besoin d'avoir les jeux de mots qui viennent un petit peu spontanément.
C'est vrai que ce côté plaisir, on le voit vraiment très clairement.
Ouais, c'est quelque chose de très important pour moi.
J'ai vu une main se lever. Non ? Ah. Oui.
Vous dites je détruis 30 pages. Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur ?
J'écris à l'ordinateur parce que c'est quand même pour des raisons vraiment pratiques. Moi, j'utilise beaucoup les couleurs pour passer des passages en couleurs, ceux dont je suis très satisfait, ceux qu'il faudrait peut-être un petit peu revoir en utilisant ouais, différentes tailles de police où il y a vraiment... finalement ce que je ferais avec des stabilos et des crayons, mais c'est plus pratique à travailler directement le texte comme ça. Mais évidemment, j'adorerais avoir un grand livre et écrire à la plume dedans. Mais... Et il y a aussi pour la musique qui est directement du coup sur l'ordinateur, donc c'est au même endroit, le dictionnaire en ligne qui est directement sur l'ordinateur, donc c'est au même endroit. En fait, c'est vraiment pour des raisons pratiques. Ben, par contre, mes élèves, ils écrivent le plus souvent dans leur cahier d'écriture. Mais de temps en temps, on va aussi écrire à l'ordinateur parce que c'est quand même une approche un peu différente du texte quand on a le droit de revenir sur la première ligne et de la détruire et de faire autre chose et de mettre un paragraphe avant l'autre. Ce n'est pas le même processus que de commencer en haut du cahier et de finir en bas du cahier. Et je trouve que c'est intéressant de varier et d'avoir les deux.
Cornelia, tu as une question ?
Peut-être même deux.
Deux.
La première, ça serait, est-ce qu'en processus d'écriture, vous avez parlé avec des gens du cirque pour vous inspirer ?
Absolument aucune fois. Et je ne me suis pas non plus rendu au cirque, vraiment aucune fois. Donc je n'ai pas eu plus de lien avec le cirque pendant l'écriture de ce roman qu'auparavant.
Donc tout est sorti de la fantaisie, de votre imagination. Et la deuxième question, c'est une fois que le roman a été écrit, est-ce que vous avez des retours de gens du cirque ?
Je ne crois pas particulièrement. Non. Non, pas que je sache. Et mon premier roman, les caractères, ils se passent dans une imprimerie et c'était le même processus. J'ai rien fait comme recherche sur comment ça fonctionne une imprimerie. Je suis pas allé dans une imprimerie, je connais aucun imprimeur et j'ai vraiment essayé d'imaginer au maximum comment ça se passait. Et là, par contre, j'ai une fois rencontré des imprimeurs qui ont acheté mon livre, mais je les ai jamais revus, donc je sais pas ce qu'ils en ont pensé. C'est possible.
Et tes grands-parents ?
Ouais, mes grands-parents, ils sont, c'est des fans fidèles. Et du coup, ils ont adoré le lire. Je sais que ma grand-maman, elle l'a relu une deuxième fois pour être sûre d'avoir raté aucun jeu de mots. Et d'avoir, okay, ouais, ils ont été très touchés par cette histoire.
Ça leur a fait regretter de ne pas avoir été sans
Je crois que ça leur a bien convenu finalement d'être dans l'école ordinaire et dans la banque ordinaire, mais ça existe toujours comme ça quelque part, ce rêve.
Vous avez un rythme d'écriture ?
Moi, j'adorerais avoir un rythme d'écriture, mais j'y arrive pas. Il y a des moments où j'ai eu des grosses journées à l'école et le soir en rentrant, je peux écrire 3 pages et des semaines de vacances où j'arrive pas à en écrire une seule. Et j'ai essayé de m'imposer des rythmes, mais ça fonctionne pas. Il faut que je laisse venir naturellement.
Alors, comme Cornelia l'a dit, on peut te découvrir avec ces 3 romans, donc Les caractères, Après Saturne et puis Le garçon léopard. Mais il y a aussi de la poésie et une pièce de théâtre. Donc tout ça, ce sera à découvrir. Vous n'avez maintenant plus aucune excuse, finalement. Et toi, tu vois directement, maintenant une suite, plutôt, dans l'écriture ?
Une suite à ce livre, c'est la première fois que je me sens autant attaché à un roman et que j'aurais envie que les personnages y vivent encore un peu quelque part. Donc j'y ai pensé, mais pour l'instant, c'est une pensée parmi d'autres. Et autrement, pour la suite, je suis en train de travailler sur un 4e roman qui sera un peu différent parce qu'il a beaucoup plus encore de travail sur la langue. C'est presque une sorte de poème en prose et qui sera illustré. Donc je travaille avec un illustrateur. Et du coup, c'est un projet assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est aussi très différent d'élaborer une histoire à deux et pas d'être seul avec ça. Et ouais, c'est super enrichissant comme expérience.
S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je propose que vous retrouviez Bastien Roubati à la table à côté de Cornelia. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Je laisse le mot de fin à Cornelia. Et une bonne soirée à vous.
Merci. Merci.
Merci beaucoup, Bastien, Alex et Adeline, de nous avoir fait pénétrer dans le monde du cirque Van Hornum. Et j'espère effectivement que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ces personnages, sur ce sympathique Bertil, et puis sur les jumelles siamoises, la contorsionniste, le fakir. Enfin, il y a toute une ribambelle de personnages qui sont vraiment très colorés et très intéressants. Donc, si vous avez envie de lire le livre, il y a donc la table juste là derrière vous, où il y a deux personnes des éditions PLF qui sont venues exprès de Fribourg avec les trois ouvrages. Donc, vous pouvez les acquérir là-bas. Et Bastien se fera un plaisir de vous faire une dédicace. Et puis, sur cette table des dédicaces, il y a aussi, en fait, un peu de matériel sur Tu l'as lu. Donc, il y a notre marque-page qui vous donne le programme jusqu'en juin. Donc, de janvier à juin, il y a encore 4 événements jusqu'en juin. Et puis, il y a aussi du matériel qui vous dit un peu plus sur Tu l'as lu et comment devenir membre, parce qu'on fonctionne, en fait, on a des sponsors, mais on a aussi des membres qui payent des cotisations. Donc, on est très content toujours d'avoir de nouveaux membres. Et puis, aussi, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité que vous nous fassiez des dons. Parce que plusieurs fois, pendant les derniers rendez-vous, les gens me disaient « Mais est-ce qu'on peut participer ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et là, maintenant, il y a possibilité de faire un don. Parce que chez nous, l'entrée est libre. Et puis, il y a souvent une verrée. D'ailleurs, il y aura une verrée après. Donc, si vous avez envie de faire un petit geste pour l'association, c'est bien volontiers. Merci. Et puis, pour la prochaine fois, donc notre prochain rendez-vous a lieu le 18 mars. Cette fois, on ira dans un gymnase. On ira au gymnase de Chamblande à Puy. Et on va recevoir Reinhard Freudiger avec son roman Vanité, qui a été publié aux éditions de l'Air. Et ce qui est aussi particulier dans cette prochaine rencontre, c'est que ce seront des gymnasiens qui vont orchestrer la rencontre, qui vont faire l'animation. Et il y aura aussi de la musique avec un guitariste qui s'appelle Daniel Pérez et qui va nous jouer de la bossa nova. Donc ça, c'est le 18 mars à 19h au gymnase de Chamblande à la cafétéria. Et puis, bon, maintenant, on continue avec la petite verrée traditionnelle qu'on a toujours. Donc, il y aura à boire, il y aura une petite soupe. C'est offert. Je vous souhaite une très bonne suite de soirée.